Bienvenue à cette troisième conférence de notre cycle consacré à l'écologie et à la tentative de penser le monde d'après la valeur hégémonique de la croissance. Avant de laisser la parole à Jean-Marie Lacrosse, je voudrais démentir un fait communément admis, notamment dans la brochure de présentation de ce cycle, un fait qui selon moi est faux. Non, Jean-Marie Lacrosse n'est pas un sociologue. J'en prends pour indice les titres de quelques-unes de ses publications. La Belgique telle qu'elle s'ignore, publiée dans la revue Le Débat, et qui par beaucoup d'aspects est plutôt l'œuvre d'un historien, voire parfois même d'un anthropologue, vu l'étude poussée qu'il y propose des mœurs et des rites d'une tribu bien particulière, les Belges. La décision sur soi, thèse de doctorat, qui penche pas mal du côté psy, en étudiant les nouvelles conditions d'efficacité des psychothérapies. C'est arrivé loin de chez nous, qui relève de criminologie par rapport à l'affaire de la Marche Blanche, et enquête sur un crime symbolique, où il s'essaye à la critique de cinéma. Qu'est-ce que la cyberdépendance? Ou encore, le porno peut-il faire l'éducation sexuelle de nos enfants? Et note sur les conditions sociales de réussite des parties, qui nous mettent sur la trace d'un hédoniste bien au fait des addictions contemporaines. J'ai moi-même été bernée lorsqu'à 18 ans, j'ai voulu suivre les traces de mon père en embrassant des études de sociologie. Eh bien, je me suis rendu compte qu'on m'avait trompée, et que c'est bien plutôt du côté de la philosophie que je trouverais des pistes pour rejoindre cette science holiste et hétéroclite que pratiquait Jean-Marie Lacrosse. Mais ici aussi, philosophie n'est pas à prendre dans un sens trop académique ou trop classique. Il s'agit plutôt de l'exigence de penser les choses ensemble, de surplomber les catégories et les disciplines pour penser ce qui les relie. C'est-à-dire qu'il s'agit de rendre visible cet endroit qui est à la fois le plus intime et le plus collectif, et qui fait que nous sommes profondément des êtres politiques. Ces tentatives ont pu prendre des noms compliqués tels que anthroposociologie transcendantale ou encore psychopathologie historique, comme c'est le cas de ce séminaire qu'il anime depuis maintenant bientôt 15 ans, avec principalement des psychiatres et des psychologues, mais qui a compté aussi parmi ses intervenants des enseignants, des journalistes, un juge, des travailleurs sociaux de tous bords, avec toujours cette exigence clinique de penser la société contemporaine dans ses symptômes concrets. Rappelez-vous ce proverbe de Benjamin Peltier : la force des vrais détours n'est pas d'éloigner, mais d'atteindre au but avec plus d'exactitude. Excusez-moi. Je cède la parole à Jean-Marie Lacrosse.
Merci. Donc, voilà, je ne suis donc pas sociologue. Et ce que vous allez entendre ne relève pas de la sociologie. Hélène l'a très bien expliqué. Alors, je voudrais commencer en évoquant les hésitations qui ont accompagné l'attribution d'un titre, l'intitulé de cette conférence. Hésitations qui n'ont sans doute pas échappé à un certain nombre d'entre vous. Et si je les évoque, c'est parce qu'elles concernent donc justement le cœur même de ce dont nous allons traiter ici. Premier titre de cette conférence était « La psychologie individuelle dans une société d'individus ». C'est le titre que j'avais donné, un peu comme ça, légèrement. Et puis, ce titre avait été transmis à Utopia, et pour une communication un peu défaillante, il est resté pendant un certain temps, donc, affiché comme étant le titre de la conférence. Puis, je me suis dit « Mais non, c'est pas de ça que je veux parler ». Il s'agit de psychologie collective, donc je l'ai changé, la psychologie collective dans une société d'individus, un obstacle infranchissable. Alors, il s'agit, je pense, d'un lapsus, puisque, en fait, psychologie collective renvoie, quand on spontanément, à des auteurs de la fin du XIXe siècle, du début du XXe siècle, il y en a deux principalement, Gustave Le Bon, la psychologie des foules, psychologie collective, et Freud lui-même, dans son essai « Psychologie collective et analyse du moi » de 1921. Encore que, en allant relire cet essai, on se rend compte que Freud est beaucoup plus subtil que Le Monde. En fait, le livre de Freud est une sorte de lecture critique de Le Monde qui se base entièrement sur le travail de Gustave Le Monde, mais qui reprend et dans lequel, je vous donne une petite citation, il dit « L'opposition entre la psychologie individuelle et la psychologie sociale ou collective, qui peut à première vue paraître très profonde, perd beaucoup de son acuité lorsqu'on l'examine de plus près. Sans doute, la première a pour objet l'individu et recherche les moyens dont il se sert et les voies qu'il suit pour obtenir la satisfaction de ses désirs et besoins, mais dans cette recherche, elle ne réussit que rarement et dans des cas tout à fait exceptionnels à faire abstraction des rapports qui existent entre l'individu et ses semblables. L'attitude de l'individu à l'égard de ses parents, de ses frères et sœurs, de la personne aimée, de son médecin, bref, tous les rapports qui ont jusqu'à présent fait l'objet de recherches psychanalytiques peuvent, à juste titre, être considérés comme des phénomènes sociaux. » Voilà quelque chose qu'on a peut-être oublié chez Freud, qui est un auteur extrêmement, je disais, subtil. Donc, en fait, ce que Freud essaye de montrer, c'est qu'il s'agit bien de psychologie collective, même lorsqu'on n'a pas affaire à des grandes quantités, hein, comme spontanément on penserait collectif, foule, et ça engage immédiatement toute une série d'images. Et c'est probablement là que tenait lapsus, on peut dire que c'est un lapsus, c'est-à-dire que je ne voulais pas justement parler de psychologie collective dans le sens où on l'entendait, puisque cette psychologie des foules, etc., a beaucoup servi pour, dans la critique des régimes totalitaires et de toutes ces périodes totalitaires. Donc, il s'agit bien ici, donc justement, dans cette psychologie collective, il s'agit bien de montrer que l'essentiel de la psychologie collective aujourd'hui est précisément donc ce qui, en apparence, lui est opposé, c'est-à-dire l'individu et ses droits. La signification centrale de la psychologie collective dont il s'agit, donc, c'est l'individu. Voilà l'énorme paradoxe, me semble-t-il, qui sous-tend toutes nos existences aujourd'hui et que je vais essayer d'un peu déployer. Le sacre de l'individu, avant d'être un fait psychologique, est un fait social et juridique. Et c'est ce passage de l'individu au premier plan qui est, à mon sens, le phénomène source à l'origine de toutes les transformations absolument saisissantes que nous avons connues dans les 40 dernières années. Avant de m'engager dans l'analyse, je voudrais dire un mot du genre dans lequel nous serons aujourd'hui mes propos. Il ne s'agit pas donc de s'aventurer dans le registre de la dénonciation, un registre qui tend aujourd'hui à occuper pratiquement toute la place dans la sphère médiatique, médiatico-intellectuelle, on pourrait dire. Donc, les intellectuels peuvent bien sûr écrire des cartes blanches, des lettres ouvertes, des pétitions, etc., comme tout le monde. Mais ils n'ont rien, véritablement, ils n'ont pas aucun privilège de ce point de vue-là. Il ne s'agit pas non plus, comme on le dit, ce dont on parle beaucoup aujourd'hui, il ne s'agit pas non plus d'un débat de société. Un débat de société dans lequel nous serions mis face à des choix de société. Ce n'est pas du tout de ça qu'il s'agit. Bien sûr, il y a des choix à faire à partir de ce que, éventuellement à partir de ce qui est contenu dans ce que nous dirons, dans ce que nous verrons aujourd'hui. Mais donc, le débat de société, c'est par exemple aujourd'hui, prenons dans l'actualité, c'est êtes-vous pour ou contre le 11 janvier ? Donc là, en France. Donc, c'est-à-dire, Emmanuel Todd a écrit un livre et donc on a maintenant ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. C'est pas de ça qu'il s'agit. Ici, le débat, c'est pas est-ce que vous êtes pour ou contre l'individu. Donc, il s'agit, en fait, d'un débat théorique, il faut oser le mot, qui porte sur la manière dont nous pouvons appréhender la réalité, le monde, nous-mêmes, et à partir de ces représentations que nous sommes susceptibles de nous en donner, les mots et les concepts que nous pouvons utiliser pour la nommer. Donc il s'agit là d'un genre, le débat théorique, qui s'est hélas, fortement anémiée, dans les, même dégradée, on pourrait dire, dans, depuis une quarantaine d'années. Et je pense que ce n'est pas, j'essaierai de le montrer en terminant, ce n'est pas étranger à notre sujet. Je vais donc faire trois choses, en fait, dans cet exposé. Je vais d'abord, dans un premier temps, reconstituer, si vous le voulez bien, l'espèce de scène primitive de notre sujet, c'est-à-dire cette émergence sacre de l'individu et la manière dont il va, on va se demander mais qu'est-ce qui est en train de se passer de ce point de vue-là. Donc là, une sorte de scène primitive, de moment initial, moment inaugural. Et dans cette première partie, je parlerai à la première personne, puisque donc, j'ai été très fortement impliqué dans cette affaire, aux alentours de 1980. Ensuite, je montrerai en quoi, par rapport à ce moment de discussion inaugurale, c'est l'analyse de Marcel Gauchet, donc, qui a été proposée dans les années 90, au début des années 90, qui me semble, donc, par rapport à ce moment, tranché sur les autres, à la fois par son ampleur et par sa profondeur. Mais aussi parce que, donc, comme vous verrez que dans ce moment initial, il y a en quelque sorte une thèse plutôt psychologique ou psychanalytique et une thèse sociologique, comment donc, il opère aussi une synthèse entre ces deux thèses. Synthèse. Et enfin, troisième partie, je ferai ressortir comment les remaniements et les approfondissements que Marcel Gauchet a apportés à son analyse depuis cette période, donc dans la période récente, représentent en réalité encore donc, une avancée tout à fait décisive dans cette question. Et à propos, je voudrais signaler mais que, donc, pour ceux qui s'intéressent, l'intégralité des séminaires de Marcel Gauchet sont écoutables sur le site Les Amis de Marcel Gauchet, donc vous pouvez approfondir facilement la question, et que, en ce qui nous concerne, nous travaillons sur justement une série de séances sur cette question, une séance de séminaire relative à cette question le mardi soir, ici même, dans une autre salle. Donc, première étape, le moment inaugural 1980. Moi, je suis entré dans cette affaire un peu par hasard, en 1979. Il n'y avait rien qui me prédestinait vraiment à m'intéresser spécifiquement à l'individu, à m'engager dans une, on pourrait dire, une sociologie de l'individu, sinon que j'avais, dès le début de la décennie, déserté les courants français de sociologie en vogue à l'époque pour faire un séjour, me frotter à la sociologie américaine et notamment aux travaux d'Irving Goffman. Goffman, donc la mise en scène de la vie quotidienne, Presentation of Self in Everyday Life en anglais, qui montrait comment on gagnait fortement en intelligibilité en lisant des comportements que spontanément nous aurions interprétés comme relevant de la psychologie des individus, donc en les lisant comme des rôles sociaux, comme une mise en scène, mais le plus souvent inconsciente de son caractère de mise en scène. Donc comme des comportements qui obéissaient en fait à des normes, à des obligations sociales. J'avais en partie repris cette stratégie de recherche quand, rentré en Europe, cherchant un groupe de recherche dans lequel m'inscrire, j'avais rencontré Robert Castel. Nous avions fait à ce moment-là une étude, donc une recherche sur ce que Robert Castel appelait la nouvelle culture psychologique. Donc Robert Castel, je ne sais pas si vous le connaissez, maintenant il est mort récemment, donc c'est un auteur qui a pris dans la ligne de Foucault le problème de l'histoire de la psychiatrie et de cette montée en puissance du phénomène psy. Et donc le phénomène psy, la montée en puissance des psychothérapies, étant lui-même un phénomène social, précisément qui devait intéresser les sociologues. Au début d'ailleurs, mes collègues ne comprenaient pas très bien, ils disaient « mais enfin, quoi, t'es psy ?» Donc, Nous étudions donc précisément ce mouvement. Il avait démarré en Californie, développement du potentiel humain, montée des pratiques thérapeutiques, et pratiques thérapeutiques, ou post-thérapeutiques, comme je l'avais appelé à ce moment-là, chez des individus qui n'étaient pas du tout affectés de troubles mentaux. Il s'agissait d'un phénomène encore marginal qui nous mettait à l'écart des grandes discussions dans les sciences sociales. J'avais réalisé avec deux étudiantes de l'ULB une cinquantaine d'entretiens d'individus qui étaient passés justement par ces dynamiques de groupe, training group, thérapie en tout genre, etc. Développement, donc toujours sous l'auspice du développement du potentiel humain. Alors, ce qui m'avait frappé dans cette culture, qui était vouée, c'était une des choses qui m'avait vraiment fortement frappé à ce moment-là, cette culture qui était vouée explicitement au développement personnel, c'était d'avoir donc des participants qui évoquaient un phénomène plutôt de repli, un phénomène de rétrécissement en quelque sorte, ou on pourrait dire de recentrement sur eux-mêmes. Je vous en livre quelques citations très rapidement pour que ça ne reste pas trop abstrait. À la suite de toutes ces activités, donc, les uns me disent qu'ils se sentent comme entourés d'une bulle. Leur moi, disent-ils, était une éponge. Il est devenu un canard, imperméable aux intempéries sociétales. Ils ont découvert qu'ils s'étaient fait prendre avec l'altruisme. Vous n'existez que parce que vous avez fait du bien aux autres. Moi, dit l'un d'eux, j'ai finalement découvert que j'étais quelqu'un et que j'avais le droit de prendre mon espace vital, de respirer. Encore une autre, une femme de 28 ans, me dit, tu es centré vers l'extérieur. Ton centre, ta raison d'être, tout est extérieur à toi, que ce soit dans la religion, dans les autres, ou que ce soit, mais tout est décentré. L'extérieur, l'autre, est plus important à la limite que toi-même. En tout cas, moi, ça m'avait fort marqué. J'ai un peu l'impression que toute ma démarche dans ces groupes, c'était pour rattraper le centre et le remettre en moi. Et à partir de ce moment-là, de pouvoir faire une démarche vers l'extérieur. J'ai l'impression qu'il y avait quelque chose là qui était faussé auparavant, qui impliquait que tout avait perpétuellement un besoin de justification extérieure. Encore une dernière citation. J'ai vraiment l'impression, il s'agit d'une femme de 31 ans, une enseignante, j'ai vraiment l'impression que pour moi, en tout cas, les groupes, ça m'a appris ça. Je cherchais trop loin, je passais mon temps à me projeter au nom de grandes idées, au nom de grands principes, alors qu'en fait, ce qui ne marchait pas, c'était des trucs beaucoup plus élémentaires. Un dernier, enfin, un homme, 34 ans, ce qui a contribué à me fermer, c'est par exemple l'idée de l'humilité, telle qu'elle est mal présentée dans la religion catholique, et la notion de sacrifice que je ne comprenais pas. Je me sentais mal reconnu, j'étais encouragé par la religion à accepter, à m'abaisser, à servir, à ne pas me donner la moindre importance. C'est un mouvement dont j'ai été la victime et auquel j'ai moi-même participé. C'est quelques-unes des citations donc, qui montraient que, au-delà de ces pratiques thérapeutiques, donc nous avions affaire en fait à des participants qui étaient, on pourrait dire, une sorte de proue d'un mouvement culturel, d'une transformation culturelle bien plus profonde, de grande ampleur, mais qu'il s'agissait alors, on ne peut pas se contenter de la décrire, vous pouvez la décrire, il s'agissait d'essayer de la comprendre, de l'interpréter. Comment comprendre, comment interpréter ce changement culturel, ce glissement de valeurs que nous observions. On disposait à ce moment, donc c'est-à-dire début 1980, pour l'interpréter, des travaux de deux auteurs américains qui avaient, il faut le dire, fait un tabac aux États-Unis, et qui avait, les États-Unis ayant, de ce point de vue, quelques longueurs d'avance sur l'Europe, donc, dans cette matière de l'individualisme, il s'agissait de Fall of Public Man, traduit les tyrannies de l'intimité, de Richard Sennett, et puis, surtout, le le livre de Christopher Lash, The Culture of Narcissism, donc, qui était paru dans les années 70, qui avait été traduit en français à ce moment-là et qui a été retraduit après, et qui continue toujours d'être lu et d'être discuté encore aujourd'hui donc, aux États-Unis, qui est en quelque sorte, on pourrait dire, donc, The Culture of Narcissism, la thèse du narcissisme, hein, c'est le mot qui s'est imposé pour désigner donc, cette nouvelle mentalité, cette nouvelle culture, c'est le mot qui s'est imposé aux États-Unis. C'est encore dans ces termes-là qu'on le discute aujourd'hui. Donc il y a encore un livre qui vient de paraître en 2014 d'une psychanalyste donc, qui discute les thèses de Christopher Lash. Et il y a tout un débat sur la question. Alors, narcissisme, j'avais en quelque sorte, j'étais très réticent à utiliser ce terme, dans la mesure où il s'agit de catégories justement relevant de la psychologie assez précises qui venaient de Freud, et dans la mesure où il ne me paraissait pas indiqué quand même d'essayer de coder avec ces catégories psychologiques des phénomènes aussi vastes relevant donc précisément de l'histoire et de la sociologie. Alors, Christopher Lash d'ailleurs, dans une postface, bon, qu'il a écrit beaucoup plus tard, manifeste à quel point il est donc véritablement resté donc attaché à cette idée de narcissisme. Il avait d'ailleurs très largement, il s'était très largement inspiré d'un livre d'un psychanalyste, Otto Kernberg, donc qui avait décelé chez ses patients ce qu'il appelait donc des personnalités narcissiques qui sont devenues après des borderline, etc. Alors, dans cette postface donc inédite, Christopher Lash dit « Après la publication de La culture du narcissisme, j'ai continué à explorer la théorie psychanalytique du narcissisme. » Et il reprend les catégories de Freud, il explique ce que c'est que le narcissisme primaire et le narcissisme secondaire. Il le définit très bien, d'ailleurs les définitions me paraissent très justes. Dans le narcissisme secondaire, il s'agit d'annuler la douleur de l'amour déçu, d'annuler la rage que ressent l'enfant contre ceux qui ne satisfont pas immédiatement ses besoins. Et vous voyez comment tout ça s'est développé sur tout ce qu'on a appelé aujourd'hui l'impossibilité de supporter la frustration, donc narcissisme secondaire, mais aussi donc narcissisme primaire. Du narcissisme secondaire, dit-il, je suis passé au narcissisme primaire, lequel fait référence à l'illusion infantile d'omnipotence qui précède la compréhension de la distinction cruciale entre soi et son environnement. Et alors il dit qu'il a relu l'article primordial de Freud donc, pour introduire le narcissisme. Et donc, il s'est aperçu que Freud, justement, présentait ces deux définitions du narcissisme. Vous remarquez aussi comment donc, cette problématique du narcissisme primaire a joué un rôle fondamental dans toute cette question de la transformation à la fois de la clinique et de la culture, un rôle fondamental, donc, puisque on a accentué les psychanalystes, un certain nombre de psychanalystes ont accentué cette idée, bon, par exemple Jean-Pierre Lebrun, cette idée que cette illusion infantile était encouragée, et cette difficulté de séparation de l'enfant vis-à-vis de la mère était accentuée par la destitution des pères, là. Etc. Et donc, d'une certaine manière, comment cette difficulté nouvelle, qui d'une certaine manière confirmait la théorie du complexe d'Oedipe, négativement la théorie du complexe d'Oedipe. Donc, vous voyez comment ce thème du narcissisme, qui était la manière de nommer ce que tout le monde a pu observer en cette fin des années 70, des années 80, a donné un certain nombre de débouchés, de développement, donc à la fois sur le plan clinique et donc sur le plan psychologique et sur le plan sociologique. Donc moi j'avais proposé une autre définition parce que justement je n'étais pas très à l'aise avec cette idée de traduction de catégories psychanalytiques dans la vie sociale et collective. Et j'avais retrouvé comme ça une citation de Durkheim à propos du suicide égoïste. Alors, je vous dis tout de suite, donc j'avais proposé, pour rendre compte de ces comportements, j'avais parlé d'un égoïsme de repli. Bon, malheureusement, égoïsme, je retombais dans une catégorie morale et psychologique, qui, alors que justement, donc, c'est pas très satisfaisant, puisque l'égoïsme, on pourrait dire, bon, on a découvert au XVIIe siècle, Larache, Foucault, Hobbes, etc., tous les auteurs du XVIIe siècle ont découvert que l'égoïsme, l'homme était une créature très égoïste, marquée par l'amour propre, l'amour de soi, etc. Là, rien de nouveau sous le soleil, puis c'était peut-être pas justement précisément de ça qu'il s'agissait. Donc l'important, dans la manière de nommer les choses, était plutôt le mot de repli. Donc la citation de Durkheim a été reprise par Robert Castel dans un livre, La gestion des risques, de l'antipsychiatrie à la pré-psychanalyse, dans lequel il étudiait justement cette nouvelle culture psychologique, et c'était, justement, il avait repris mon hypothèse. Cette citation, c'était « La société ne peut, je dois de nouveau la lire parce qu'elle est importante, la société ne peut se désintégrer sans que, dans la même mesure, l'individu ne soit dégagé de la vie sociale, sans que ses fins propres ne deviennent prépondérantes sur les fins communes, sans que sa personnalité, en un mot, ne tente à se mettre au-dessus de la personnalité collective. » Donc c'est Durkheim. « Plus les groupes auxquels il appartient sont affaiblis, moins il en dépend, plus, par la suite, il ne relève que de lui-même pour ne reconnaître d'autres règles de conduite que celles qui sont fondées dans ses intérêts privés. » Et Robert Castel donc concluait « L'égoïsme de repli est moins une structure de la personnalité qu'une position refuge commandée par certaines transformations sociales. » Donc là, on était dans, je dirais, une thèse sociologique, et donc on minimisait très fortement un changement dans la structure de la personnalité. Mais je vous dis, Robert Castel avait repris cette citation, il l'avait simplement repris, mais pas pire. Bon, l'individu dégagé de la vie sociale. Alors, la part de vérité qu'il y avait là-dedans, me semble-t-il, on peut assez facilement la restaurer aujourd'hui. Donc, l'idée qui me paraît fausse aujourd'hui de désintégration des sociétés, d'où pouvait-elle venir? Elle venait, je pense, de la crise de l'avenir, on peut appeler la crise de l'avenir, qui avait surgi aux alentours de 1975, qui a été fatale d'ailleurs au régime communiste, au régime de l'avenir, c'est-à-dire une crise des fins communes, en quelque sorte, des finalités communes que nous pouvons nous donner, l'avenir devenant infigurable. De ce point de vue-là, cette idée d'une position refuge, d'un repli, était certainement juste, mais elle ne disait qu'une partie de la vérité. Et elle a ensuite été, je pense, reprise en partie par des sociologues, comme par exemple Alain Touraine, dont je me souviens un jour dans l'ascenseur aux facultés Notre-Dame de la Paix, je lui ai dit, mais M. Touraine, il faut quand même que vous n'accordez pas assez d'importance à l'individu, à l'individualisme dans vos derniers travaux. Il me dit, mais enfin, monsieur, l'individu, c'est un entracte. Donc, nous reviendrons, pour les sociologues, d'une certaine manière, c'est inconcevable, ils sont tellement persuadés que l'individu et la société sont inséparables, que donc il leur était difficile de penser qu'il se passait autre chose. Donc voilà, en quelque sorte, situation initiale. Par rapport à cette double thèse, donc une thèse plutôt psychanalytique, psychologique, une thèse sociologique, un livre paraît, ou un article d'abord, puis qui va donner un livre, en 1980, donc un texte extrêmement intéressant, parce que justement, il est écrit par un sociologue, et il accrédite la thèse, en quelque sorte, la thèse psychologique, la thèse du narcissisme. Il s'agit donc d'un texte de Gilles Lipovetsky, qui s'appelle « Narcisse ou la stratégie du vide », donc il reprend l'idée de « Narcisse », et ce texte sera publié en 1983 dans un livre qui compte une compilation de ses articles, L'ère du vide. Je vous donne encore une petite citation. Au-delà, dit-il, de la mode et de son écume, et quelques caricatures que l'on puisse faire ici ou là de ce néo-narcissisme, son apparition sur la scène intellectuelle présente l'intérêt majeur de nous contraindre à enregistrer dans toute sa radicalité la mutation anthropologique. Donc il parle de, le premier, de mutation anthropologique. La mutation anthropologique qui s'accomplit sous nos yeux et que chacun de nous ressent bien, en quelque manière, fût-ce confusément. Un nouveau stade de l'individualisme se met en place. Le narcissisme désigne le surgissement d'un profil inédit de l'individu dans ses rapports avec lui-même et son corps, avec autrui, le monde et le temps, au moment où le capitalisme autoritaire cède la place, le pas à un capitalisme hédoniste et permissif. Donc voilà un texte où, alors la suite de l'article, donc c'est une description assez fine de ce nouvel air du temps, on pourrait dire, de ce nouveau climat moral qu'il nomme, je pense, très adéquatement comme un nouveau stade de l'individualisme. Dans ce texte, Lipovetsky critique, à juste titre, me semble-t-il, la tonalité tragique, pessimiste, voire même apocalyptique, catastrophiste, que l'on trouve chez, surtout chez Christopher Lasch, et qui lui paraît très peu en phase avec l'air du temps, l'air du temps qui est au contraire marqué par la légèreté. Lipovetsky vient encore d'écrire un livre sur la légèreté, disons l'apathie frivole, dit-il, l'indifférence. En fait, ce livre donne vraiment, du point de vue du climat, de l'ambiance de nos sociétés, très juste, nous vivons une époque cool, bien le dire. Mais, tout en critiquant le tragique de ces auteurs américains, Lipovetsky montre quand même comment cette atmosphère cool, à un certain prix, le vide, un prix qui peut devenir exorbitant, l'insignifiance, le vide, etc. Donc en 1980, on pourrait dire, voilà la scène initiale, le diagnostic de Lipovetsky me semble le bon. On pourrait dire que l'essentiel a été posé, l'essentiel du diagnostic a été donné dans ce texte, à la fois donc, une rupture très profonde et très radicale dans l'histoire humaine, dans l'histoire de l'humanité, ce qu'il appelle mutation anthropologique, mais une rupture qui s'inscrit dans une continuité. Il dit très bien, il s'agit d'un nouveau stade de l'individualisme. Et enfin, donc troisième chose qui est aussi présente chez Lipovetsky, donc ce nouveau climat moral et psychologique qui se laisse détecter à travers le prisme grossissant, le miroir grossissant de la clinique psychologique, donc à travers ce qu'on a appelé des nouvelles pathologies. En gros, principalement, il le signale, des troubles de l'identité, donc caractéristiques de personnalité assez flottantes, inconsistantes, ce qui ne veut pas dire faible, c'est pas du tout faible, mais flottante et inconsistante, un peu à la lumière, à l'image de l'ère du temps. Des troubles de l'identité et des troubles du rapport à autrui. Bon, les psychothérapeutes, paraît-il, voient beaucoup plus de disputes, beaucoup plus à traiter de conflits relationnels dans les couples, etc., que des individus qui feraient une espèce de travail sur eux-mêmes, comme au temps de la psychanalyse. Donc des troubles du rapport à autrui, caractérisés par l'ambivalence, donc, de ce nouvel individu vis-à-vis des autres. D'une part, une peur, une mise à l'écart, une mise à distance, et en même temps, une peur de le perdre, une peur de l'avoir perdu, qui peut carrément virer à la panique. Donc, d'ailleurs, la recrudescence de ce que mon ami Bernard Fauré appelle des panique attaques. Le diagnostic a été clairement posé par Lipovetsky en 1980, reste à transformer cet essai en une véritable théorie. Il faut répondre à ces deux questions. Donc, premièrement, première question, en quoi consiste précisément cette mutation anthropologique dont Lasch et Lipovetsky décrivent les premières manifestations? Et deuxièmement, que faut-il entendre au juste par individualisme contemporain et dans quel sens donc, s'agit-il là d'un nouveau stade de l'individualisme? S'il y a un nouveau stade de l'individualisme, ça veut bien dire qu'il en a eu plusieurs auparavant. La réponse à ces deux questions donc, sera, me semble-t-il, sera l'essentiel du travail que Marcel Gauchet va opérer dans les années, donc à partir du début des années 90. Marcel Gauchet va traiter ces questions dans deux essais qui paraîtront d'abord dans la revue Le Débat en 1998 et qui seront reprises ensuite dans la dans son livre qui s'appelle donc La démocratie contre elle-même, comme essai de psychologie contemporaine. Alors, petite parenthèse anecdotique, en réalité, ces essais sont la retranscription écrite de deux conférences données à Louvain-la-Neuve en novembre 1994. J'avais entendu ces quelques séances du séminaire à Paris, donc à l'École des études en sciences sociales. Elles m'avaient paru absolument lumineuses et extrêmement éclairantes. Et donc, je l'avais invité à Louvain-la-Neuve en 1994. Nous avons retranscrit ces conférences. Ça avait donné une première version dans une revue belge, la revue Travail et le Social. Et puis, il avait été repris dans Le Débat. Et donc, ces essais de psychologie contemporaine donc, ont été très, très largement très cités donc, après leur parution. Ils ont été repris par un certain nombre d'auteurs sur mode de critique. Je les cite pour l'anecdote parce que, en réalité, je trouve que ce genre de querelle déshonore plutôt notre discipline. Ils ont été repris, par exemple, par Alain Ehrenberg, la Société du malaise, qui les réexpose, et plus récemment par un jeune sociologue que j'ai eu comme étudiant en Louvain-la-Neuve, Nicolas Marquis, donc qui a écrit un livre justement sur du bien-être au marché du malaise, la société du développement personnel. Alors, que dit Ehrenberg donc, dans ce livre, la société du malaise? Il dit « Ces analyses profondément pessimistes constituent la déclinologie française ». J'emploie déclinologie au sens descriptif que lui attribue Berkowitz pour la Jérémiade américaine, une exhortation publique exprimant une profonde inquiétude et joignant la critique de l'état de la société à l'appel au renouveau. Bon. Alors, repartons de là. Il y a bien chez Gauchet une idée, une fois qu'il utilise le mot déclin. C'est lorsqu'il parle de déclin de l'esprit public. Ben, c'est une observation, je pense, qu'on aura pu tous faire. Et donc, il s'agit aujourd'hui, on le dit de plus en plus, donner des cours de citoyenneté, redécouvrir la citoyenneté, etc. Je pense qu'au contraire, justement, il faut être très précis là-dedans, Gauchet rompt radicalement avec la thèse pessimiste, qui pouvait être celle de Christopher Lasch et des Américains, d'un déclin et telle qu'on pouvait encore la trouver chez Durkheim. Donc la thèse d'une désintégration de la société, décadence, déclin, etc. Donc je vous rappelle ce que j'ai cité tout à l'heure, la société ne peut se désintégrer sans que l'individu ne soit dégagé de la vie sociale, et sans que ses fins propres deviennent prépondérantes sur les fins communes. C'est pas du tout de ça qu'il s'agit chez Gauchet. Dégagé de la vie sociale, Gauchet n'a de cesse de montrer, dans ses essais, mais dans d'autres également, qu'il s'agit au contraire d'un individu hyper socialisé, d'un individu extraordinairement intégré dans sa société, branché, connecté en permanence. Donc c'est une espèce de Robinson Crusoe, mais en plein milieu d'une hyper connexion. plein milieu de New York, Robinson Crusoe. Donc ça n'a rien à voir avec la solitude, un individu solitaire, etc. Ce n'est pas du tout de ça qu'il s'agit. Donc ce que, justement, l'importance de la contribution de Gauchet, c'est de montrer que, en réalité, il s'agit de la société. Donc c'est la société qui donc, promeut, justement, cette valeur donnée à l'individu comme une fin en soi. Et donc, c'est en quelque sorte en s'intégrant dans la société que cet individu se détache, se délie de ses semblables. Je vous lis la phrase qui me paraît significative dans ces essais de psychologie contemporaine. La caractéristique fondamentale, dit-il, de la personnalité contemporaine serait l'effacement de cette structuration par l'appartenance. Nous ne sommes plus structurés par l'appartenance. L'individu contemporain aurait en propre d'être le premier individu à vivre en ignorant qu'il vit en société. Alors, la phrase suivante est très importante. Le premier individu à pouvoir se permettre, de par l'évolution même de la société, d'ignorer qu'il est en société. Alors, il corrige évidemment rapidement, il ne l'ignore pas, bien évidemment, au sens superficiel où il ne s'en rendrait pas compte. Il ignore en ceci qu'il n'est pas organisé au plus profond de son être par la précédence du social et par l'englobement au sein d'une collectivité, avec ce que cela a voulu dire millénairement durant, de sentiment d'obligation et de sens de la dette. L'individu contemporain, ce serait l'individu déconnecté symboliquement et cognitivement du point de vue du tout, l'individu pour lequel il n'y a plus de sens à se placer au point de vue de l'ensemble. Donc voilà une définition qui rompt, je pense, radicalement avec l'idée d'un déclin. D'ailleurs, le terme central chez Gauchet, pour ceux qui le lisent attentivement, c'est le mot « crise », qui veut dire tout à fait autre chose. Il y a bien une crise grave, qui peut devenir encore plus grave, mais qui relève donc simplement d'un entre-deux. Gauchet montre très bien donc, dans ses textes que c'est dans la logique même de l'autonomie structurelle, de la mise en place des structures permettant à l'humanité de réaliser son autonomie, c'est-à-dire de se faire elle-même, de se créer elle-même, que s'inscrit cette promotion de l'individu, ce narcissisme, si vous voulez. Donc c'est tout à fait autre chose, qu'il s'agit, très important. Par rapport aux deux questions qui restaient en suspens chez Lipovetsky, la nature de l'individualisme et le stade de l'individualisme que ça représente, et donc la nature de cette mutation anthropologique, Gauchet va proposer, me semble-t-il déjà là, mais aussi dans d'autres travaux, des clarifications décisives. Je vais d'abord, on trouve la réponse à la première question dans ces textes, dans les travaux des années 90, mais ce sera la troisième partie de mon exposé, ce n'est véritablement que dans les travaux tout à fait récents, qui sont encore très largement inédits, mais qu'on peut utiliser, écouter sur très largement inédits, que on va trouver véritablement la réponse substantielle à la deuxième question. Ça veut dire quoi, mutation anthropologique, rupture anthropologique? De quoi s'agit-il exactement? Pour répondre à cette question donc, de l'individualisme, la nature de l'individualisme contemporain, il faut, montre Gauchet dans ce texte, il faut se donner une perspective de très très longue durée. En gros, il faut partir du 13e siècle, 14e siècle. L'individualisme, c'est d'abord un individualisme métaphysique. Donc c'est d'abord sur le plan métaphysique, plan de l'être même, des choses, que va s'opérer cette transformation qui va mener à la modernité. Alors, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de la philosophie, on peut dire que le premier représentant de cet individualisme, c'est un franciscain anglais, Oxford, Guillaume d'Ockham. Donc, Guillaume d'Ockham, hein, qui rompt avec ce qu'on pourrait appeler le réalisme métaphysique de Thomas d'Aquin. Thomas d'Aquin qui reprend en réalité donc, les œuvres des Grecs, donc des philosophes grecs, surtout d'Aristote. Et donc l'opposition en réalité réalisme-nominalisme, c'est comme ça qu'on le cite, ou holisme-individualisme, correspond à ce véritable renversement hein, entre l'universel et le particulier, entre l'abstrait et le concret, pour les modernes, à partir de Guillaume d'Ockham, qui a été rejeté par l'Église catholique, etc., en autant, il n'a pas une vie extrêmement tranquille en affirmant, en prenant cette position philosophique. Donc, ce qui est premier, c'est la réalité concrète des choses, donc, c'est-à-dire des individus, en l'occurrence, c'est la réalité concrète, et donc les universaux sont des abstractions qui ne sont pas données dans la réalité. Elles sont des noms que nous donnons à la réalité. Entre parenthèses, pour ne pas dire de bêtises, j'ai été revoir hier sur Wikipédia, un peu comment c'est faux, malheureusement. Et pour les jeunes, ne vous fiez pas à Wikipédia. Le débat entre saint Thomas d'Aquin et Guillaume d'Ockham n'a rien à voir avec le débat qu'il y avait entre Platon et Aristote. Alors, c'est écrit sur Wikipédia, allez le voir, la querelle des universaux. Et vous voyez que ce débat n'a rien à voir. Il s'agit chez Platon et Aristote, on est bien dans cette logique holiste, donc réaliste, si vous voulez, des anciens. La différence entre Platon et ce que Aristote propose à Platon, c'est justement le fait que cette réalité est justement matérielle. Donc, par exemple, prenons l'âme. Ben, l'âme n'existe pas sans le corps. L'âme est la forme du corps. Donc, il y a aussi l'illémorphisme. Mais ce débat ne met absolument pas en cause le cadre général à l'intérieur duquel résonnent les deux philosophes. D'ailleurs, Aristote, quand il traite de l'homme, dit l'homme est un animal politique, c'est un animal qui est naturellement dans la cité, qui n'existe que dans la cité. Individu. Donc c'est là que ça commence. Ça commence, on pourrait dire, à l'entour de 1350. Et puis, toute la suite, donc toutes les étapes de l'individualisme vont consister en réalité à des applications de cette nouvelle métaphysique, de cette métaphysique moderne. Première étape, l'individualisme juridico-politique, dont le premier représentant sera Thomas Hobbes, mais qui va donc parcourir pendant 150 ans le XVIIe, XVIIIe siècle, Hobbes, Locke, Rousseau, etc. Individualisme juridico-politique, donc c'est-à-dire on place l'individu au point de départ dans l'état de nature, il y a d'abord l'individu qui est premier, et puis il y a ensuite ces individus qui s'assemblent sur base d'une philosophie contractualiste, donc un contrat social en quelque sorte, qui va produire, inventer, créer artificiellement ce léviathan, donc cet ensemble, ce collectif. C'est dans toute cette période que vont s'élaborer les deux formes modernes, typiquement modernes, de lien social, le contrat, le marché. Le contrat et le marché, donc, qui sont justement des formes de lien social dans lesquelles l'individu est posé, mais avant le lien qui résulte du contrat ou du marché, donc qui résulte de leur association contractuelle ou sur base d'un marché. Donc ces deux formes typiquement modernes du lien social, dont nous savons aujourd'hui évidemment sont fictives, il n'y a pas d'individu qui serait là dans l'état de nature et puis salut les copains, on va quand même faire une société parce que ce serait quand même mieux, on ne sera pas tout seul dans notre coin, pas du tout. Ça, c'est très naïf, mais enfin, malgré tout, toute notre philosophie politique reste fondée sur cette idée d'une primauté qui est donnée à l'individu. Donc, on peut dire qu'on est, nous nos sociétés sont basées, et tout notre droit est basé sur donc, un individualisme juridique. Cet individualisme juridique, individualisme continu, a progressé, et va déboucher au XIXe siècle sur ce qu'on pourrait appeler un individualisme sociologique, ou un individualisme social. Il s'agit simplement de mettre en œuvre, d'appliquer concrètement dans la société ces deux formes de lien social modernes, nouvelles, le contrat et le marché. Donc la citoyenneté, si vous voulez, puisque dans la citoyenneté, c'est l'idée de contrat qui prévaut, la citoyenneté et le marché, qui vont peu à peu, tout le XIXe siècle est le théâtre de se substituer aux formes traditionnelles d'appartenance et à toutes ces dépendances communautaires. Alors, de nouveau, c'est important de noter que donc, cette émancipation sociologique de l'individu, que l'on commence à assister à ce moment-là, mais ça prend du temps, cette émancipation sociologique est de nouveau un processus social. Les sociologues, notamment Niklas Luhmann, sociologue allemand, et d'autres, ont bien mis en évidence ce processus. Donc, les sociétés anciennes, dans les sociétés anciennes, la différenciation à l'intérieur de la société, elle est hiérarchique. Donc, vous avez un statut, en quelque sorte. Vous appartenez à un rang. Vous avez une place déterminée, définie, dans la société. Et cette place, vous la conservez toute la vie. Dans les sociétés modernes, au contraire, la différenciation des activités est fonctionnelle. Donc, vous avez des sphères d'activité, les loisirs, le sport, le travail, la science, etc., qui vont donc s'autonomiser, qui vont se différencier. Et c'est par cette différenciation fonctionnelle que peut émerger cet individu qui va donc se caractériser non plus par un statut, s'il aura aussi des statuts, mais dans un autre sens, mais par un rôle. Donc les deux concepts clés de la sociologie, statut et rôle, correspondent à cette transformation. Un rôle, donc, c'est-à-dire l'individu est libre parce que donc, il peut évoluer, donc entrer et sortir dans différentes sphères d'activité. Aucune de celles-là ne pouvant en quelque sorte satisfaire l'ensemble de ses besoins et de ses désirs. Individualisme métaphysique, individualisme juridico-politique, individualisme social. Il y a une quatrième étape, c'est précisément celle à laquelle nous allons assister en début des années 80, individualisme anthropologique, on pourrait dire, ou psychologique. C'est-à-dire que, donc si vous voulez, l'extension et la généralisation de cette logique individualiste qui nous amène en fait à l'idée, inconsciemment, quasiment présente dans toute la discussion aujourd'hui, il n'y a plus que des individus. Il n'y a que des individus. Donc la réalité même est faite d'individus. Et qui va faire entrer dans cette idée d'individu des catégories qui, jusque-là, jusque très récemment, en avaient été exclues. Les femmes, les jeunes et les enfants. Donc, d'où la logique des droits des enfants, etc. Individualisme anthropologique, comme le souligne bien Marcel Gauchet, qui procède d'une désinstitutionnalisation de la famille. Donc, la famille était restée, très curieusement, cette structure encore ancienne, traditionnelle, hiérarchique, donc avec des rapports de domination masculine, enfin, c'est tout ça nous connaissons, justement parce qu'elle remplissait cette fonction, de perpétuation de l'espèce humaine, donc elle était restée, en quelque sorte, marquée, inscrite dans un moule, on pourrait dire, holiste, traditionnel. Tout ça a été en quelques années balayé, et donc nous sommes énormément passés à cette généralisation de ce statut d'individu. Alors on dit parfois sujet, etc. Mais bon, préfère en rester. Alors, je préfère dire le mot individu, je dis pourquoi ? Oui, parce que justement, donc, c'est le mot individu est ce qui nous permet le mieux de comprendre le caractère social de tout ce processus, donc ce processus social historique. Je dois dire aussi que Marcel Gauchet apporte beaucoup de clarifications sur cette notion d'individu. Je vais simplement dire un petit mot de parenthèse. Donc, individu, donc ça, on pourrait dire à l'individu des démographes, Emmanuel Todd, par exemple, c'est l'individu biologique. Le nombre de têtes de bétail humaines qu'on peut trouver, ça augmente, ça diminue, etc. J'ai cassé le micro. Oui, il est cassé. Non, ça va. Bon, donc, l'individu biologique. Puis, il y a un autre mot qui nous permet de rendre compte de ce que les individus humains, donc à la différence justement des têtes de bétail, sont aussi des individus, sont aussi...
Il paraît qu'on ne t'entend pas bien, donc c'est peut-être que la batterie est... Attends, on va te mettre ça comme ça.
Ah, ça suffit.
C'est pour qu'on t'entende bien, il faut. Ah, bon. C'est unidirectionnel, il faut parler bien en fait.
Bon. Donc, individu, vous m'entendez ? Donc, individu biologique, mais donc justement, nous, on a affaire dans l'espèce humaine à autre chose quand même, des individus qui ont une identité, ce qu'on appelle une identité. Ils savent qui ils sont, ils savent, ils connaissent les autres autour d'eux, etc. Et ça, depuis. Tous les témoignages qu'on en a depuis le début de l'humanité, depuis dans les sociétés, les fameuses sociétés primitives, on a affaire véritablement à ce genre d'individus, qu'il faut donc appeler autrement, je pense qu'on pourrait appeler des personnes, parce que le mot personne, donc toutes les sociétés humaines sont des sociétés de personnes dans lesquelles les individus sont, alors on faut utiliser un autre mot que individualiser, individués, donc il y a une individuation, et c'est un fait psychique, donc individuation, qui ne s'opère que dans, en même temps que la sociation. Donc ces individus ne sont individués qu'en étant en même temps sociés, en quelque sorte. Individuation et sociation sont donc corollaires et complémentaires. Sur fond de cette individuation générale, donc invariant de l'espèce humaine, on peut alors comprendre ce que signifie l'individualisation, individualisation, qui est donc le phénomène alors typiquement moderne dont je viens de retracer les étapes. Donc qui procède justement qui est inscrit dans la modernité elle-même. Hein. Donc, au fond, les individus devenant en quelque sorte les fondements même de l'édifice collectif dans cette représentation, qui d'autre d'ailleurs pourrait se trouver au fondement, qui d'autre pourrait justifier les institutions, qui donc d'autres pourraient les ratifier ou les changer, sinon ces fameux individus dotés du droit, donc du droit de les changer, du droit de les changer ou de les ratifier, de les garder en l'état. Donc c'est bien véritablement dans la modernité, c'est bien un processus social de composition des ensembles collectif et de légitimité, de ce qui est légitime, de ce qui n'est pas légitime, qui en quelque sorte, se cache, pas tellement, sous cette idée de l'individu. Donc vous voyez à quel point il s'agit d'un phénomène profond et large, que nous devons prendre à sa juste mesure, évaluer à sa juste mesure. Alors, si l'essai de psychologie contemporaine, donc de... Et... Qu'est-ce que j'ai encore... Encore un quart d'heure. Donc, si l'essai de psychologie contemporaine est Tous les travaux connexes de Gaucher nous éclairaient puissamment sur la nature de cet individualisme. Donc, il y a celui-ci, mais il y a aussi un autre texte très important qui s'appelle « La religion dans la démocratie », donc sur la question de la laïcité, etc., 1998, texte aussi fondamental. Mais par contre, on pourrait dire que ce texte laissait dans l'ombre la nature même de cette rupture anthropologique, de cette révolution anthropologique. De quoi s'agissait-il exactement? C'était la question. Deuxième question, qui était à élaborer si l'on voulait rendre le diagnostic plus consistant et plus solide. Diagnostic donc déjà formulé par Lipovetsky. Dans cet essai de psychologie contemporaine, comme vous avez pu vous en rendre compte dans la citation tout à l'heure, elle était définie négativement, à partir de ce qui s'effaçait, à partir de ce qui disparaissait. D'où alors peut-être, si on est vraiment de mauvaise foi, la possibilité de dire qu'on nous présente ça comme un déclin ou comme un... Bon, pas du tout. Bon. Mais en tout cas, elle était présentée négativement. Ce qui s'effaçait, c'était la structuration par l'appartenance. Ce qui avait amené Marcel Gaucher à distinguer, donc, dans cette logique de structuration par l'appartenance, deux types de personnalités. Il a une personnalité qu'il appelait la personnalité traditionnelle, dont, disait-il, qui, personnalité qui s'est incorporée la norme collective, les significations collectives, donc les individus s'identifient à ces significations collectives et ils se sont laissés véritablement incorporer. Et puis un deuxième type de personnalité qu'il appelait la personnalité moderne, en fait on pourrait dire la personnalité que Freud justement a pu explorer donc dans ses profondeurs, dans la profondeur du psychisme, caractérisée par l'intériorisation des normes. Donc la différence incorporation, intériorisation, intériorisation des significations collectives, ça veut dire que cette personnalité, elle les connaît, donc elle les a intériorisées, mais donc elle les connaît et elle les intériorise donc en conscience, par la conscience et la volonté. Ce qui veut dire que puisqu'elle essaie de se les rendre conscientes, donc elle peut éventuellement s'en distancier, prendre ses distances par rapport à ses significations collectives, par rapport à cette norme collective, à ces normes collectives. Et il définissait un troisième type de personnalité, donc justement la personnalité contemporaine, cette fameuse personnalité narcissique. Entre parenthèses, il y avait aussi dans cet essai dit, essayons un peu de définir un peu correctement cette affaire de narcissisme. C'est une personnalité qui est marquée par une très forte adhérence à soi. Mais, donc il faut comprendre cette adhérence à soi, pathologie addictive, nous savons très bien à quel point l'importance qu'elles ont dans notre monde, adhérence à soi parce qu'il y a, cet individu est déconnecté symboliquement et cognitivement du point de vue du tout. Cet individu pour lequel il n'y a plus de sens à se placer du point de vue de l'ensemble. Donc il est beaucoup plus dans cette adhérence à soi, donc dans ce repli, dans ce rétrécissement, en quelque sorte. Il restait donc, et c'est ce que Gaucher fait dans ses derniers travaux, il restait donc à définir positivement l'opérateur de cette mutation. Il s'agissait donc, en quelque sorte, d'essayer d'entrer, comme il le dit lui-même, dans la boîte noire. Dans la boîte noire, dans l'inconscient, en quelque sorte, de cet individu contemporain. Je pourrais ici passer la parole à notre ami Jean-Paul Lascarte, qui est là, parce qu'il a intensément potassé sur cette question, il a beaucoup travaillé, et il va nous présenter ça ce mardi 12 mai, donc justement, j'en parlais dans les séminaires que nous organisons dans une autre salle, ici, dans le bâtiment. Petite minute de publicité. Donc, entrer dans la boîte noire, entrer dans l'inconscient de cet individu contemporain. Alors, pour ceux qui connaissent l'œuvre de Gaucher, on peut remarquer qu'il traitait en quelque sorte deux problèmes séparément. Il a consacré énormément de texte et à réfléchir sur les droits de l'homme. Dans ce livre, La démocratie contre elle-même, le premier texte s'appelle « Les droits de l'homme ne sont pas une politique » et le texte final, 20 ans plus tard, donc le premier c'est en 1980, deuxième en 2000, « Quand les droits de l'homme deviennent une politique ». Vraiment devenu une politique. Donc il traitait cette question des droits de l'homme d'un côté et la question de la psychologie de l'individu contemporain était traitée séparément. Sans que, explicitement, le lien ne soit fait entre les deux. Alors, donc, justement, dans ces derniers travaux, c'est donc, le croisement, donc c'est justement la couture, en quelque sorte, de ces deux types de problématiques qui va, me semble-t-il, éclairer très puissamment, donc c'est nous permettre d'entrer dans cette boîte noire. L'opérateur positif, donc si l'on réfléchit bien, l'opérateur positif de cette transformation, nous dit-il, c'est donc précisément cette idée de droit de l'homme, hein, que nous appelons les droits de l'homme, c'est-à-dire cette idée d'un individu de droit, donc d'un individu pour lequel le droit ne reste plus simplement une technique ou des techniques auxquelles on recourt de temps en temps. On va chez l'avocat, on doit aller au tribunal, etc. Le droit est là, jusque-là, il était très largement extérieur. Mais il s'agit véritablement donc d'une rupture lorsque le droit passe à l'intérieur des individus. Donc lorsqu'ils deviennent, ils n'ont pas simplement des droits, ils deviennent véritablement des êtres de droit. Ils se définissent par le droit. On pourrait encore le dire autrement. Donc, cet individu contemporain substitue à l'identification au collectif une identification à son être de droit. Donc, c'est un individu qui s'identifie à son être de droit et donc qui a du mal, en même temps, à s'identifier à la collectivité. Il s'agit donc, si vous voulez, d'une abstraction, l'abstraction juridique. Le droit, les droits de l'homme, c'est un idéal, c'est une idée abstraite, une abstraction juridique, mais qui va passer, qui est passée depuis une trentaine d'années, dans la vie concrète et de plus en plus de nos sociétés. Donc, c'est en quelque sorte la conjonction opérée entre, on pourrait dire, cet individu abstrait, cet idéal de l'individu des droits de l'homme et un individu concret qui dispose, et c'est ça un point aussi très important, qui va donc disposer de toutes les conditions données par la société qui sont mises à sa disposition pour justement pouvoir exercer cette indépendance liée à son être de droit. Donc individu abstrait et individu concret, individu social, si vous voulez, ça veut dire quoi ? Ben, ça veut dire l'individu qui a joui d'un très haut niveau de protection sociale, qui est éduqué, qui est un consommateur, qui communique avec ses semblables. Donc toutes ces institutions, en quelque sorte, qui sont mises en place depuis un siècle et qui sont toutes, donc, qui visent toutes à produire cet individu, donc à donner, à créer les conditions donc permettant à cet individu abstrait, donc cet idéal de l'individu, d'entrer dans la vie concrète de nos sociétés. Voilà une définition. Donc, nous sommes donc sortis, une définition beaucoup plus précise, nous sommes donc sortis du régime, on pourrait dire, d'identification hiérarchique, ce qui veut dire que nous donnions la primauté, donc, dans toutes les sociétés, il y avait une primauté, en quelque sorte, du groupe sur l'individu qui existait pour le groupe et par le groupe, donc par la collectivité, et nous sommes entrés dans une autre forme, une identification à notre être de droit. Alors, je précise encore un peu, parce que c'est sûr, c'est peut-être pas tellement facile à comprendre, mais pour bien comprendre de quoi il s'agit, il faut introduire un terme supplémentaire, c'est le terme de réflexivité. nous savons aujourd'hui que l'homme est une espèce dotée de réflexivité, donc c'est une des caractéristiques les plus profondes par lesquelles elle se rapporte à elle-même et elle peut donc se connaître elle-même, se changer elle-même, etc. Parce que notre réflexivité, des sociologues comme Giddens, par exemple, ont montré la place extraordinairement importante qu'occupe la réflexivité dans nos sociétés contemporaines par rapport aux sociétés traditionnelles. Nous, tout est en quelque sorte réfléchi. Donc ça, c'est une forme de réflexivité, mais ce n'est pas de celle-là qu'il s'agit quand on parle de réflexivité. Il y en a une autre, celle que mobilise Gaucher, qui est la réflexivité sociale ou la réflexivité collective. C'est-à-dire le fait que nos sociétés, et donc les individus qui sont membres de ces sociétés, se réfléchissent eux-mêmes, donc dans le miroir de normes, en quelque sorte, dans un miroir collectif et social. Et on pourrait dire ici que le miroir principal par lequel ces individus se réfléchissent, donc du point collectivement, c'est donc précisément cette norme des droits de l'homme. Donc ça, c'est en quelque sorte, si on voulait, on pourrait dire l'infrastructure. L'infrastructure inconsciente sur laquelle donc repose ce nouvel individu qui explique évidemment énormément de choses. Par exemple, si vous appliquez cet individu, si vous appliquez radicalement cette conception à l'éducation, est-ce que l'éducation est encore possible? C'est-à-dire que vous dites que donc, dès sa naissance, le bébé est un individu qui est premier, il vient avant même toute forme de connaissance et d'éducation qu'il peut acquérir. Donc on peut se rendre compte qu'on est devant des paradoxes, des questions extrêmement difficiles sur lesquelles nous allons devoir beaucoup réfléchir, ce que malheureusement, je trouve, nous ne faisons pas beaucoup pour le moment. Donc, sur base, j'en terminerai par là, mais bien sûr, on pourra après discuter, sur base de cette infrastructure, donc cette boîte noire en quelque sorte, c'est sur, que s'élabore donc la nouvelle conscience, on pourrait dire, alors je vais utiliser des termes un peu anciens, conscience collective. Donc, c'est sur base de cet inconscient que l'on peut comprendre une série de transformations qui ont eu lieu dans le domaine de la conscience et dans le domaine, donc précisément, intellectuel. Donc, essayons d'en tirer très rapidement un peu les conséquences donc, pour ce qui est devenu aujourd'hui, ce que nous appelons aujourd'hui des sociétés de la connaissance, ou le système de connaissance dans lequel nous sommes embarqués. Je prends un mot que nous utilisons couramment. Si nous sommes sortis de la religion, nous sommes guidés par la raison. Bon. Mais si nous réfléchissons un instant, nous voyons tout de suite que l'idée même que nous avons aujourd'hui de la raison est extraordinairement différente de l'idée de la raison quand elle a émergé au XVIIIe siècle. Elle a changé complètement de sens et nous ne nous en sommes pas aperçus. Je prends par exemple l'idée de raison chez Rousseau, dans le contrat social. Chez Rousseau, il s'agit bien donc de créer un lien social. C'est un prophète, Rousseau, en quelque sorte. C'est le prophète, on pourrait dire, de la démocratie. Il s'agit de créer un lien social donc, qui va délier les individus, les rendre totalement indépendants les uns des autres, tout en les liant mieux qu'ils ne l'ont jamais été, et en les liant très très fortement, parce qu'ils sont liés justement par la volonté, par la raison et par la volonté. Donc le lien qu'ils vont former entre eux est beaucoup plus, va être beaucoup plus intense, beaucoup plus solide que le lien que formaient par exemple auparavant des croyances religieuses communes, pense Rousseau. Or, si nous regardons aujourd'hui ce que représente la raison, nous voyons qu'au contraire, elle considère en quelque sorte, elle ne met plus du tout l'accent sur l'union des êtres ou l'union des esprits que peut réaliser la raison, elle met au contraire l'accent sur ce qui va les séparer les uns des autres, les distinguer, ce qui va leur permettre de critiquer éventuellement les autres, les séparer et les distinguer dans leur singularité. C'est ce que se traduit donc par la tolérance, tolérance à tour de pensée. Mais donc, l'idée même qu'il pourrait y avoir un lien créé par la connaissance, et que donc il pourrait y avoir un type de connaissance qui pourrait donc auquel nous pourrions ensemble adhérer, a complètement disparu. Non seulement ça a disparu, mais je pense que c'est interdit. C'est-à-dire, il est interdit. Il faudrait donc que vous vous identifiez, vous vous rendez compte, vous identifiez au collectif, parler au nom du collectif, quelque chose qui concerne tout le monde et qui va nous concerner tous ensemble, ça paraît assez bizarre. Donc nous sommes, on pourrait expliquer à partir de cette transformation de l'infrastructure, on pourrait expliquer le système de connaissances qui s'est mis en place. Si vous regardez les connaissances aujourd'hui, ce sont des connaissances opératoires. Les connaissances qui sont nécessaires pour le fonctionnement de la société ne sont pas des idées d'ensemble. On ne peut même pas imaginer qu'il y ait une idée, comme celle qu'on peut exposer comme ça, qui pourrait donc avoir une pertinence pour l'ensemble des membres d'une société. Donc les connaissances, la psychologie comportementale, le droit, l'économie, etc., ça, la communication, mais plus question de plus question donc dans le fonctionnement collectif de faire jouer un rôle à ces idées. Ce qui fait que dans ses derniers textes, Marcel Gauchet insiste sur le fait que donc la connaissance, en quelque sorte, s'est toujours heurtée à l'ignorance, mais qu'aujourd'hui, ce dont il est question, ce qui est générateur d'une certaine méconnaissance ou d'une certaine ignorance, c'est précisément la connaissance elle-même. Donc le type de connaissance que nous avons développé dans ce contexte, génère une extraordinaire méconnaissance, une extraordinaire ignorance, une désintellectualisation radicale. La crise de 2008 a été, me semble-t-il, un bel exemple de ce dysfonctionnement, des connaissances mobilisées, connaissances opératoires mobilisées par les analystes financiers, etc. Il y a là-dessus quelques livres de journalistes extraordinairement intéressants. Donc, on pourrait dire, dernier mot, il y a l'infrastructure psychologique basée sur cet individu dans son identification à son être de droit, et une infrastructure politique qui, elle aussi, a complètement changé de nature, puisque le politique, en quelque sorte, aujourd'hui, il n'est plus du tout dans les idées, il n'est plus du tout dans les superstructures, il est lui aussi passé dans l'infrastructure, si bien qu'on ne le voit plus. Donc nos sociétés sont liées, donc nous sommes liés par une extraordinaire machinerie juridique, économique, politique, etc. Donc nous sommes en quelque sorte liés par les pieds, alors que nos ancêtres étaient liés par les têtes. Donc dans nos têtes, nous pouvons divaguer, nous pouvons nous intéresser aux idées ou ne pas nous y intéresser. Ça n'a pas d'importance, ce n'est plus véritablement nécessaire, pensons-nous, pour assurer le fonctionnement de nos sociétés. D'ailleurs, comme il y a toujours le retour du refoulé, où s'opère, dans quel domaine s'opère aujourd'hui le retour du refoulé, eh bien, là où personnellement j'irai demain soir, donc, au Standard, pour aller hurler avec 20 000 personnes, tous ensemble, tous ensemble, tous ensemble. Bon, voilà. Alors, c'est là que, véritablement, bon, ça s'opère. Alors, j'ai terminé. Je voulais simplement, simplement dire, bon, je laisse évidemment à chacun tirer les leçons de ce que je pense être l'obstacle majeur de, bon, véritablement, il n'est pas du tout, c'est pas du tout un obstacle infranchissable. Parce que, donc justement, nous pouvons prendre conscience de cette situation et essayer de la changer. Parce que, donc, c'est un peu triste pour la pensée d'être à ce point réduite à devenir simplement des idées, que vous pouvez avoir vos idées, vous, chacun a ses idées, mais bon, dans votre coin, et puis, bon, débrouillez-vous. Et, bon, c'est un peu triste quand même. C'est bien pour le football, mais c'est pas très bien pour la pensée. Alors, en quoi est-ce que ceci est pertinent pour la question de la crise écologique qui nous occupe depuis le début de ce cycle? Je vous lis simplement une phrase de ce livre actualisé sur les limites de la croissance par Denis Meadows. Donc, la préface des auteurs, nouvelle préface, donc en 2002, écrite en 2002, « C'est pourquoi, disent-ils, nous sommes beaucoup plus pessimistes qu'en 1972 quant à l'avenir qui nous attend. Il est triste de constater que l'humanité a pour l'essentiel gâché les 30 dernières années en se perdant dans de vains débats et en apportant des réponses sincères mais timides aux défis écologiques mondiaux. Nous n'avons plus 30 ans à perdre, il va falloir procéder à de nombreux changements si nous voulons qu'au dépassement actuel, donc dépassement des capacités donc justement de la planète, ne succède pas un effondrement du XXIe siècle. Ben, je crois que donc nous avons l'analyse que je vous ai présentée contribue, me semble-t-il, à expliquer ces 30 ans que nous avons perdus et que nous allons devoir regagner. Je vous remercie.